Vous êtes sur RTL.
La victime est un homme blond.
Quoi d'autre?
C'est devant chez Julia.
Est-ce que vous savez où est Kyle? Je veux que tu me dises ce qui se passe vraiment. Mais le problème, c'est que je ne trouve rien qui pourrait disculper l'un ou l'autre. Et si je ne trouve rien, le petit va retourner en tôle. We don't get fooled
again. Les secrets de la police scientifique, des experts et des experts, on en a aussi au micro de la curiosité. Bonjour Pierre Piazza.
Bonjour.
Soyez le bienvenu, vous êtes maître de conférence en sciences politiques, commissaire de l'exposition « La science à la poursuite du crime » à découvrir aux Archives nationales en ce moment à Paris. À vos côtés, Richard Marley, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Commissaire divisionnaire honoraire, chef de l'identité judiciaire de Paris entre 1995 et 2005. Petite question pour planter un peu le décor. À quelle époque naît la police scientifique ?
Pierre Piazza. Alors, la police scientifique, elle naît, je pense, en grande partie grâce à Alphonse Bertillon lors du dernier tiers du 19e siècle, parce que c'est lui qui va poser des bases importantes en matière d'identification des individus, et puis aussi des bases tout aussi importantes en matière d'interprétation des traces et des indices à des fins de résolution des affaires de vol, de crimes, etc.
Et ça, Richard Marley, ça a changé évidemment, nourri toute votre carrière de commissaire ?
Oui, bien sûr. Ah, il se trouve que moi, je suis le 13e successeur d'Alphonse Bertillon. J'y suis resté 10 ans, vous l'avez dit, de 95 à 2005, où des attentats de 95 jusqu'aux opérations d'identification des victimes de catastrophes du tsunami, en passant par Guy Georges, un autre tueur en série qui s'appelait Mamadou Traoré, l'accident de circulation de Lady Di, la tuerie de Nanterre par Richard Durne, et puis deux, trois autres petites bricoles.
Et ce qu'avait inventé Bertillon, en tout cas les principes, ça vous sert encore, ça vous servait encore quand vous étiez à ce poste ?
Alors, le principe, oui. En fait, l'idée de Bertillon, Pierre en parlera, hein, c'est de substituer à l'identité dont on peut changer très facilement, y substituer autre chose. Donc cette autre chose, évidemment, pour moi, ça a été les empreintes digitales et les fichiers qui vont avec. Après, c'était l'empreinte génétique. Mais l'idée, le principe, c'est celui-là. L'identité, on s'en fiche un peu, mais on prend de la biométrie, que sais-je encore. Après, il y a des choses qui sont restées de Bertillon, vraiment. C'est la photographie anthropométrique,
la photographie
de face et de profil.
Et ben, on va en parler dans un instant. Tout ce que Bertillon a inventé. J'aime bien la formule de Sidney. C'était quoi ? L'homme qui préférait les preuves matérielles au passage à tabac. C'est pas
J'aime bien, ça le résume pas mal.
Récit à venir sur RTL.
Lorsque la police technique et scientifique ouvre ses portes, l'événement est suffisamment rare pour que le public s'y précipite.
La curiosité est un vilain défaut.
On le voit tellement dans les séries, aujourd'hui, à la télé, que finalement, on ne sait pas vraiment comment ça se passe en vrai.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On leur explique que c'est quand même un petit peu différent, qu'il ne faut pas s'emballer, qu'il y a la fiction et qu'il y a la réalité.
Les secrets de la police scientifique, plutôt réalité que fiction, avec Pierre Piazza, maître de conférence en sciences politiques. Richard Marley, vous avez été chef de l'identité judiciaire de Paris entre 1995 et 2005. Alors, l'histoire de l'identité judiciaire, de l'anthropométrie judiciaire, démarre en 1880, à peu près, avec ce bonhomme, ce criminologue Alphonse Bertillon. On va dévoiler, évidemment, tout au long de l'interview, ses inventions, ses trouvailles. Mais on va revenir un petit peu au présent et à l'actu. Il y a un lien, forcément. Il y a quelques semaines, la police écossaise a cru mettre la main sur Xavier Dupont de Ligonnès.
Ça, c'est un bon souvenir journalistique là,
que vous nous racontez.
Bon. Pour la police et les médias, c'est un super bon souvenir.
Mais c'est sympa de décrypter un petit peu et de reparler justement de ces empreintes digitales pour comprendre, Richard Marley, pourquoi est-ce qu'on les a mal interprétées, ces empreintes digitales ? On a l'impression que c'est quand même assez vieux, cette analyse.
Non seulement c'est vieux, mais c'est même complètement paradoxal. En fait, quand moi j'ai l'information, et quand on commence à me parler d'identification par les empreintes digitales, pour moi, ça ne fait aucun doute. Identifié par les empreintes digitales, voilà, la certitude, c'est 99,99% de positif.
Donc si on vous dit ça, ça veut dire c'est
Dupont
de Ligonnès.
Oui, pour moi, c'est sûr, c'est sûr. Et puis après, donc je continue à écouter vos confrères, j'entends beaucoup de choses curieuses sur les empreintes digitales, ça c'est un autre débat. Hein. Et puis on commence à évoquer les doutes, et puis on commence à parler des points caractéristiques.
C'est les points communs, c'est ça, plusieurs empreintes digitales.
Après, le truc, c'est de dire, enfin de réfléchir un tout petit peu, hein, et de dire, ben voilà, qu'est-ce qu'ont les Écossais ? Ils ont les empreintes digitales d'un monsieur X, pouvant être Xavier Dupont de Ligonnès.
Ouais.
Donc il suffit de numériser ces empreintes digitales, et on a ces empreintes digitales. Évidemment, pour identifier, comme aurait dit la police, il faut un deuxième truc. avec quoi on va comparer ça? Et en fait, ce qui semblait ressortir, c'est de dire, les Écossais ont utilisé l'affiche diffusée par Interpol sur laquelle il y a des empreintes digitales. Ça me paraît quand même un peu curieux. Et après, je me suis dit, mais d'où elles viennent ces empreintes digitales qui sont sur l'affiche? Là, il y avait plusieurs possibilités. Ou bien Xavier Dupont de Ligonnès est déjà connu par les flics, les policiers, pardon. Et à ce moment-là, ils ont les 10 images d'empreintes digitales. Ou bien, et ça c'est pas le cas, ou bien Xavier Dupont de Ligonnès a demandé une carte d'identité, un passeport, et à ce moment-là, ils ont une ou deux empreintes. Oui. S'il l'a demandé il y a déjà très longtemps, en fait, on a dû faire ça, en fait. On prend un petit peu d'encre, on met l'empreinte sur une feuille de papier, et comme c'est fait par des gens qui s'y connaissent pas, en fait, vous avez un pâté d'encre.
Donc c'est pas utilisable.
C'est pas
très fiable.
Et on arrive mieux à comprendre, parce qu'en fait, ce pâté d'encre, il va avoir que quelques points caractéristiques. Et on a parlé à un moment de 5 points caractéristiques. Après, il faut savoir aussi que, bon, en France, il y a un standard numérique, on parle de 12 points caractéristiques.
On va vous raccourcir, ne vous inquiétez pas.
Voilà, on parle de 12 points caractéristiques, mais on oublie qu'en fait, les Écossais, depuis 2006, ils ont abandonné ce qu'on appelle le standard numérique. Ils sont sur une approche qualitative qui va de l'exclusion à l'identification en passant par probable, possible, très possible.
Donc, il compare moins de points communs entre deux empreintes digitales.
C'est-à-dire qu'ils ne prennent plus en compte le nombre de points caractéristiques, mais leur nature, leur fréquence statistique.
Et alors, entre les empreintes digitales, et c'est passionnant, on découvre ça aussi dans votre livre, à la poursuite du crime aux éditions de La Martinière, pour différencier des empreintes digitales, il y a des détails qui portent des noms très très jolis. Ce sont lesquels, Pierre Piazza?
On a des arcs, des boucles, etc.
Et en fait, des deltas, oui, des îlots, des ponts. La géographie, quoi.
On voyage parce que justement, on peut catégoriser les empreintes par grand type de forme. Et dans chaque forme, il y a des caractéristiques qu'on peut aussi et qu'on doit analyser. Et c'est là qu'on pointe les caractéristiques communes qu'évoquait Richard, c'est-à-dire 12 maintenant. Mais à l'époque de Bertillon, 17. Alors, Bertillon, 17, pourquoi? Parce que s'il y a 17 points de concordance et pas de points de discordance, eh bien, il n'y a pratiquement aucune chance de trouver deux individus qui ont statistiquement les mêmes empreintes dans le monde entier. Donc, en effet, comme le disait Richard, c'est quelque chose de très important parce que ça permet d'identifier à coup sûr. Mais ce nombre de points est très important. Ce nombre de points est très important, ces caractéristiques sont très importantes.
Comment il a commencé, Bertillon, à travailler sur quelle population pour tester ses théories, pour la mettre au point?
Alors Bertillon, il travaille initialement sur tous les prévenus, c'est-à-dire toutes les personnes qui, pour une raison ou une autre, sont arrêtées par la police et que l'on conduit au dépôt de la préfecture de police de Paris. Donc dans un premier temps, il va les mensurer, comme on dit à l'époque, les mesurer, parce que on est un peu comme sur les empreintes digitales, on a tous des mensurations différentes, et donc il y a statistiquement très peu de chances, voire c'est improbable, de trouver deux individus qui ont exactement les mêmes mensurations, si on mesure le pied, la longueur du crâne, la longueur de la coudée, du coude au médius, etc., la hauteur de la personne. On a tous des mensurations différentes, ce qui est discriminant et ce qui permet de distinguer un individu d'un autre. Ensuite, il passera aux empreintes digitales un peu plus tard.
Et puis, on voit apparaître aussi avec Alphonse Bertillon les photos, vous savez, les fameuses photos de face
profil.
Et de profil. Ça porte un nom, évidemment, et c'est une étape capitale de l'histoire de la police scientifique. À tout de suite, les curieux, sur RTL.
Vous le savez, il y a plus de 50 ans, Lino Ventura crée Personnage pour qu'on fasse de la place aux personnes handicapées et à leurs familles. À l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, c'est plus que jamais l'occasion de répondre à son appel. Alors, faites place. Faites place dans vos cœurs, dans la société. Faites place à ceux qui ont besoin qu'on les accueille dans des maisons de vie où ils seront soutenus et accompagnés. Faites place en soutenant Personnage en allant sur perse-neige.org.
Nous avons affaire au même meurtre que celui de 1856.
L'affaire Kelly O'Brien, n'a jamais retrouvé le meurtrier.
Ce qui veut dire?
Ce qui veut dire que l'homme qu'on cherche a 159 ans.
La curiosité est un vilain défaut.
On n'a pas affaire à un débutant.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous faites des photos pour l'enquête?
Sur RTL.
Non, pour Instagram.
Hashtag meurtre, hashtag no filter.
Les séries policières version pas le macho. Heureusement, nos invités sont beaucoup plus sérieux. Richard Marlet, ancien patron de l'identité judiciaire de Paris, s'il vous plaît. Et Pierre Piazza, qui est maître de conférence en sciences politiques. Grâce à vous, on découvre l'histoire, puis on fait des passerelles entre l'histoire et aujourd'hui, l'histoire de cette police scientifique, et notamment le rôle joué par Alphonse Bertillon. Donc on est à la fin du 19e siècle, les deux dernières décennies de ce siècle, quand Bertillon commence à mettre en place son système, les mensurations, puis les empreintes digitales. On va parler aussi des portraits face profil. Mais on faisait comment avant ?
Avant, il y a un gros problème, c'est qu'on a du mal à identifier les individus, tout simplement parce que l'état civil n'est pas fiable, et donc on peut pas prendre en considération l'état civil, parce que les individus qui ont quelque chose à se reprocher en changent comme de chemise, dit Bertillon, et donc il faut trouver un autre système. Les papiers d'identité sont pas très développés, et ce qu'on fait généralement, bah il y a des ruses, alors ça peut être la violence, le passage à tabac, hein, pour extorquer des aveux, mais sinon des ruses comme le moutonnage, c'est-à-dire placer un mouton dans la cellule de l'individu qui veut pas avouer sa véritable identité. Un mouton, hein, bien sûr, c'est pas l'animal, c'est quelqu'un qui travaille pour la police, voilà, qui travaille pour la police. C'est un indicateur. C'est soit un policier qui se fait passer pour un prévenu, soit un prévenu à qui on promet une remise de peine. Donc il y a des choses comme ça qui sont pas très fiables, qui sont généralement connues des récidivistes. Et donc tout ça est très aléatoire. Et
alors, beaucoup d'erreurs judiciaires, on l'imagine.
Alors des erreurs, ça c'est difficile à quantifier à l'époque, mais surtout un problème récurrent, c'est le problème de l'identification des personnes par la police, et qui est d'autant plus important qu'à l'époque, on veut combattre les récidivistes pour les envoyer au bagne, hein, par la loi de la relégation.
Et ça l'obsédait, Richard Marlet, Alphonse Bertillon, de pouvoir comme ça avoir la vérité, la preuve, des preuves qui permettaient de ne plus passer à tabac ou extorquer des aveux. Et il était comment, ce bonhomme, d'ailleurs ?
Oui, enfin, Bertillon, donc, il est issu d'une famille de savants. Hein. Alphonse, en fait, c'est un peu le cancre de la famille. Hein. Donc, il poursuit des études de médecine, mais il les rattrape jamais. et en fait, un peu par piston, son père le fait rentrer à la préfecture de police comme commis aux écritures. Donc, son petit boulot, c'est de recopier les signalements des mises en cause. Et en fait, il va être frappé tout de suite parce que les signalements, bah, les gens sont toujours de taille moyenne, de corpulence normale, avec les cheveux foncés. Donc pour reconnaître des individus, ça ne sert à rien. Et c'est là où il a cette idée lumineuse, c'est de substituer à l'identité, comme l'a dit Pierre, hein, dont on peut changer comme de chemise, autre chose. Cette autre chose, c'est de la biométrie. Et c'est de la biométrie par les mensurations osseuses.
La biométrie, c'est l'art de mesurer, c'est ça l'être humain ?
C'est l'art de prendre autre chose du corps, et en fait d'arriver à trouver dans le corps des choses qui sont suffisamment individualisantes.
Est-ce que c'est lui qui va mettre au point ce système de photographie face profil qu'on utilise encore aujourd'hui ?
Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque, et d'ailleurs au moment où Bertillon rentre à la préfecture de police, la préfecture de police a déjà des dizaines, voire des centaines de milliers de photographies. Mais les photographes, en fait, sont plutôt des artistes. Donc les mises en cause posent, vous avez des choses très très curieuses, ils sont accoudés à une colonnette,
pris en pied,
de temps en temps ils ont un chapeau, de temps en temps ils n'ont pas de chapeau.
C'est le quart d'heure de gloire, quoi.
Oui, c'est un peu ça. Donc, pour Bertillon, il est obsédé par l'orthonomie, en fait. Il faut que les choses soient précises. Donc, en fait, il va inventer un dispositif qui permet de prendre d'abord la photographie de face, et puis à l'aide d'une manivelle, donc toujours avec la même distance entre l'objectif et puis la figure, à l'aide d'une manivelle, on fait pivoter la chaise, et là, on peut prendre la photographie de profil.
Alors, la photographie de profil, en effet, elle est très importante, comme le dit Richard, parce que ça permet de mettre en évidence tout un tas de caractéristiques physiologiques, l'oreille, hein, notamment. On a tous des oreilles différentes. Hein. Votre oreille droite est différente de votre oreille gauche, et on a tous des oreilles différentes. Mais aussi tout un tas d'autres caractéristiques, comme la forme du front, la forme du nez, la forme du menton, etc. Et c'est ça que catégorise Bertillon, et qu'il explique de manière mathématique, à l'aide d'un vocabulaire extrêmement précis, pour inventer ce qu'il appelle le porté-parlé ou le signalement descriptif.
Donc on dit plus, il a un nez tordu, un nez,
voilà,
un nez gros.
En fait, on catégorise chaque organe par un vocabulaire extrêmement précis, et non plus bouche petite, etc. Ce qu'on faisait auparavant sur les signalements et sur les papiers d'identité.
La science à la poursuite du crime, c'est le titre de votre livre publié aux éditions de La Martinière, d'Alphonse Bertillon aux experts d'aujourd'hui. Les experts d'aujourd'hui qui utilisent évidemment la reconnaissance faciale. Comment ça marche, jusqu'où ça peut aller ? Réponse à venir sur RTL.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Porte fracturée et forcée, ce local professionnel a reçu une visite imprévue pendant la nuit.
Bienvenue sur RTL, les curieux.
Ma Marine Bouchère de la police scientifique de Guéret entre en action.
Il y avait un bibelot là. Il y avait un bibelot. Ça se voit, la poussière autour.
Il voit tout, il est formidable. Non, il voit tout, t'es formidable, Lucien.
Une super remise en onde de François Touchard, oui, pardon.
Parce qu'on parle, d'un vrai reportage et ensuite on bascule dans le film Le Dîner de Con.
Voilà. Passé et
là,
futur.
C'est un inspecteur du fisc hein, dans Le Dîner de Con.
Exactement, il y avait une trace sur la table. Passé et futur de la police scientifique avec Pierre Piazza, maître de conférences en sciences politiques, et Richard Marley, ancien patron d'identité judiciaire de Paris. Richard Marley, trouver rapidement évidemment un criminel, ne pas commettre d'erreur, c'est plus que jamais le boulot de la police scientifique, qui travaille notamment sur ce qu'on appelle la reconnaissance faciale. Alors ça fonctionne comment et est-ce que ça arrive chez nous en France ?
Alors ça arrive chez nous en France, bien évidemment. Enfin, c'est même un vrai débat. Hein. L'idée, c'est toujours pareil. Hein. C'est d'arriver à déterminer sur le visage un certain nombre de points caractéristiques.
Comme on fait pour les empreintes digitales.
Comme on fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il est, comme pour les empreintes digitales, il est hors de question d'envoyer en comparaison des images. Ce sont plutôt des nuages de points caractéristiques qu'on envoie en comparaison sur N nuages de points qui seraient dans une base informatique. Donc en fait, il faut passer dans un premier temps par un algorithme qui va déterminer la distance entre les deux yeux, la longueur du nez, la distance entre les deux sourcils, la longueur des sourcils, etc. Donc on détermine un nuage de points et après, il faut l'envoyer vers une base de référence, une base d'empreintes, de visage, et essayer d'identifier les gens. Mmh. Alors, ce qui est formidable, en fait, c'est que l'intelligence artificielle fait des progrès. Mais c'est au quotidien, quoi. Donc, en fait, maintenant, on arrive, grâce à l'intelligence artificielle et avec de la statistique, hein, à reconstituer des parties du visage qui seraient un peu dans l'ombre ou qui seraient floutées, parce que toutes ces images, en fait, elles sont captées par des caméras de vidéoprotection. Donc, les gens sont jamais parfaitement de face. Mmh.
Mais alors, et vous dites, il y a un débat. La Commission nationale informatique et liberté vient de retoquer une demande qui avait été faite par la région PACA pour deux lycées, un lycée à Nice et à Marseille pour reconnaître le visage des élèves et que l'entrée du lycée soit conditionnée à la reconnaissance faciale. C'est vrai qu'on ne peut pas non plus l'utiliser partout et n'importe comment, comme en Chine avec ce crédit social qui est basé notamment sur la reconnaissance faciale et qui donne aux gens le droit de voyager ou pas, d'être un bon citoyen ou pas en fonction de ce qu'ils font dans la rue. Vous voyez ce que je veux dire?
Jusqu'où
on met la limite, quoi. Ouais.
La question se pose déjà historiquement avec le développement du bertillonnage, hein, parce qu'on a en effet des techniques qui sont d'ailleurs l'origine de la reconnaissance faciale. Hein, Bertillon, quand il invente le portrait parlé ou signalement descriptif, c'est déjà la reconnaissance faciale. Ça permet de reconnaître notamment des individus recherchés dans la rue, dans l'espace public. Alors c'est utile en matière d'identification, mais rapidement, comme vous le soulignez, on débouche bien sûr sur du contrôle social et de la surveillance. Et avec Bertillon, le problème se pose aussi. C'est-à-dire qu'initialement, son système est inventé pour identifier les délinquants récidivistes, les criminels, mais rapidement, tout un tas de populations différentes, comme les opposants politiques, les anarchistes, mais aussi, par exemple, les populations colonisées, et puis ensuite les tziganes, les nomades, les bohémiens, etc. Et donc, on a une montée en puissance, finalement, d'un fichage ou d'une reconnaissance d'individus à des fins de contrôle social qui pose, eh bien, des problèmes qui sont liés au fonctionnement de notre démocratie. Est-ce que c'est attentatoire aux libertés? Est-ce que c'est attentatoire à la vie privée, à la présomption d'innocence, au droit à l'image, etc. Et tout ça est déjà là avec Bertillon. Hein. On a une réactualisation de ces enjeux-là, maintenant, avec le développement des nouvelles techniques, mais toutes ces questions-là se posent dès la fin du 19e siècle et début 20e siècle, en fait.
Richard Marley, aujourd'hui, le futur aussi de la police scientifique, ce sont ces nouvelles traces. Donc, ce n'est pas des empreintes de chaussures, hein, mais c'est des traces numériques. Mmh. En quoi elles sont importantes ?
Bon, en fait, si vous voulez,
Et comment elles se traquent, d'ailleurs, aussi, ces traces ?
Une scène de crime, en fait, c'est une tragédie. Donc, vous avez une unité de lieu, c'est la scène de crime. Vous avez une unité d'action, c'est le crime. Et avec pratiquement toutes les traces, il vous manque une unité, c'est l'unité de temps. On ne peut pas dater une trace digitale, on ne peut pas dater une trace génétique, etc., etc. Avec les traces numériques, donc celles qui sont issues de nos téléphones portables, ou les images qu'on peut capter sur une caméra de vidéoprotection ou de surveillance, là, on a une unité de temps parfaite. À la milliseconde près. Bon, et puis nos téléphones permettent aussi de nous géolocaliser, etc., etc., etc. Donc il y a un vrai champ, et la seule difficulté, en fait, ça va être le volume de ces données-là. On va se retrouver avec des volumes considérables qu'il va falloir traiter dans un minimum de temps, dans le cadre d'une enquête.
Et former des humains pour faire tout ça.
Bien sûr, évidemment. Former des humains.
Il faut pas laisser ça aussi voilà. aux ordinateurs.
Oui, bien sûr. Et puis former, je vais remettre au point des algorithmes de plus en plus performants, etc. etc.
Merci infiniment Pierre Piazza. Je me rappelle que vous êtes le commissaire de l'exposition La science à la poursuite du crime aux Archives nationales de Paris. C'est jusqu'au 18 janvier et vous publiez avec Richard Marlet. La science à la poursuite du crime, c'est aux éditions de La Martinière et c'est un très très beau livre, un beau voyage dans l'histoire. Merci à vous deux.
Merci
à vous.
C'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous réécouter, nous podcaster en allant sur le site rtl.fr.
Rendez-vous demain à 14h. On va vous proposer une promenade de la France insolite, des surprises donc et des coulisses et des secrets. Puis on vous dira tout aussi sur les serpents. Il y a des vérités, mais il y a des légendes, vous savez bien.
Tout de suite, c'est Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre.
RTL, il est 15h.